Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Catherine Lacronière et je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une émission Objectif Santé dédiée à vos jambes ou comment avoir toutes les clés pour avoir des jambes légères et en bonne santé. Je reçois en effet deux spécialistes, le docteur Ariel Toledano, phlébologue, et Elisabeth Nadeau qui va vous initier au drainage lymphatique. Alors, docteur Toledano, bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour, merci d'avoir
bonjour
accepté.
Bonjour à Elisabeth.
Alors, vous êtes un habitué du plateau de RCJ, car vous êtes un passionné de pensée juive. Et depuis plus de 10 ans, vous explorez les liens entre Kabbale, Talmud et médecine. Mais aujourd'hui, c'est aux médecins vasculaires, angiologues et phlébologues que je m'adresse. Vous êtes enseignant à l'Université Paris-Cité et auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Alors, j'ai eu du mal à choisir, donc j'ai pris votre dernier.
C'est mieux, ouais.
Voilà, qui s'appelle « Prenez soin de vos jambes » et qui est paru aux éditions du Cerf et dans lequel vous expliquez comment prévenir et traiter les principaux problèmes circulatoires grâce à une approche à la fois médicale et surtout préventive. En face de vous, Elisabeth Nadeau, qui publie un très joli livre, « Les pouvoirs extraordinaires du drainage lymphatique chez Solar ». Vous êtes professeure d'esthétique et vous êtes spécialiste en drainage lymphatique et créatrice de la méthode Nadeau, sur laquelle vous allez tout nous dire et dans laquelle vous transmettez les principes en donnant à vos lecteurs tous les conseils indispensables pour pratiquer l'autodrainage. Alors, docteur Toledano, on va déjà faire un petit état des lieux. Combien de Françaises et de Français souffrent aujourd'hui de problèmes de circulation liés aux jambes?
Alors, on va dire que selon les statistiques les plus courantes, 18 millions à peu près de Français, Françaises qui souffrent de problèmes veineux, avec une évidente prédominance féminine, donc plus de femmes malheureusement. Mais les hommes sont aussi touchés, puisque quasiment un homme sur quatre a des problèmes veineux. Donc voilà, une grosse partie de la population française.
Surtout en ce moment avec
et en ce moment avec les chaleurs que nous connaissons, l'insuffisance veineuse se manifeste beaucoup plus, très simplement parce que la chaleur accentue la dilatation veineuse et génère des douleurs plus importantes.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise la circulation sanguine au niveau de nos jambes? Parce qu'il faut que ce sang remonte contre la gravité des pieds jusqu'au cœur.
Exactement. Donc, c'est tout le problème des veines, c'est qu'elles doivent lutter en permanence contre la pesanteur. Et en luttant contre la pesanteur, elles doivent remonter vers le haut, vers le cœur. Et c'est ce qui crée des problèmes parce que nous avons dans nos veines des petites valvules qui empêchent le sang, une fois qu'il est remonté, de redescendre. Voilà. Et donc, dès que la paroi est un peu défaillante, que ces valvules se dégradent un petit peu, le sang ne remonte plus très bien et reflue vers le bas. Et c'est ce qui définit en fait l'insuffisance veineuse superficielle. Mais je vais insister sur un point qui me paraît important pour vos auditeurs, c'est que la symptomatologie de la douleur qu'on appelle jambe lourde est une symptomatologie très difficile à expliquer. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un terme, peut-être un peu un jargon médical, c'est ce qu'on appelle la pathognomonie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'arrive pas à définir un symptôme, c'est caractéristique de la maladie veineuse. Souvent, les gens disent jambes lourdes, mais disent aussi impatience, fourmillement. Ils ont obligatoirement besoin de rajouter des termes pour essayer d'expliquer ce qu'ils ressentent. Mais souvent, ce n'est pas réellement ce qu'ils ressentent. Et quand c'est pas vraiment ils n'arrivent pas à définir ce qu'ils ressentent, c'est vraiment de l'insuffisance veineuse superficielle. Mais il faut évidemment, c'est tout le rôle du médecin vasculaire, c'est de ne pas passer à côté d'autres douleurs qui peuvent être justement cachées et qu'on a assimilé à de l'insuffisance veineuse. C'est le cas aujourd'hui, alors je vais un petit peu plus loin, on parle beaucoup du lymphœdème, par exemple.
J'allais vous interroger là-dessus un petit peu après.
On parle aussi beaucoup de syndrome des jambes sans repos, qu'on a assimilé à tort à des insuffisances veineuses, à qui on a donné à ces patients des traitements très importants de phlébotonique, de tonique veineux, et ça a généré en fait toujours, comme c'était une mauvaise indication, des résultats sur le plan de la douleur inefficace, et on a à tort dit que ça ne marchait pas, alors qu'en fait, c'était un mauvais diagnostic.
Alors, Elisabeth Nadeau, la circulation sanguine, on la connaît, mais elle n'est pas le seul système de circulation de nos jambes. Il existe un autre réseau qui est souvent beaucoup plus méconnu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est, quel est son rôle et quelles sont les grandes différences avec la circulation sanguine?
Alors, le circuit lymphatique, la grosse différence, c'est qu'on n'a pas de cœur. Alors moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a mieux, on a nos mains qui peuvent jouer un rôle très important pour stimuler justement et améliorer cette circulation. Alors, la circulation lymphatique, c'est d'abord quelque chose de très important pour le corps humain parce que c'est le vecteur, en fait, celui qui transporte nos défenses. Donc, c'est aussi essentiel d'en prendre soin et d'être bienveillant avec, c'est-à-dire de ne pas avoir des techniques manuelles
trop violentes,
profondes, voilà, violentes et agressives. On va aller travailler sur les ganglions et surtout le système de justement de la pointe des pieds jusqu'aux pointes des doigts et jusqu'au rétroclaviculaire. Donc voilà, c'est tout un système pour mettre en route ce fonctionnement et qui va permettre, sur une visée esthétique, de dégonfler et de perdre du volume.
Alors, ce que je rajouterais aussi, qui est très important à expliquer aux auditeurs, c'est qu'il y a une synergie entre le circuit lymphatique
et les veines. Il ne fonctionne pas de manière indépendante.
Voilà, exactement. Hein. C'est-à-dire que si on a un système veineux défaillant, ça va rejaillir sur le système lymphatique. S'il n'arrive pas à compenser l'insuffisance de l'insuffisance veineuse, eh ben on retrouve avec ce qu'on appelle une insuffisance véno-lymphatique. Donc du coup, bien noter qu'il y a une synergie entre les veines et les canaux lymphatiques et évidemment les artères dans l'autre sens qui, elles, font le travail inverse. Donc il y a vraiment... Et puis la pompe cardiaque au milieu. Donc tout ça, c'est la circulation sanguine. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'on connaît bien.
Alors justement, je reviens vers ces petites valvules dont vous nous parliez tout à l'heure, qui visiblement ne travaillent pas comme elles devraient, ou de cette paroi qui est défaillante. Quels sont les ennemis, quelles sont les raisons pour lesquelles on a une insuffisance veineuse?
Alors la première raison la plus redondante et qu'on retrouve systématiquement, c'est notre hérédité. Si on a un parent qui a un problème veineux, évidemment, on a toutes les, j'allais dire les chances, mais tous les risques d'en avoir. Et si on a deux parents, on a quasiment 90% de risque d'avoir des problèmes veineux. Donc l'hérédité, c'est la première des causes. Et d'ailleurs, souvent, moi, en tant que phlébologue, j'ai l'habitude de dire que je soigne souvent la maman, la grand-mère, la fille. Et puis on voit les différentes générations se succéder. Première cause, l'hérédité. Donc quand on a ce problème dans la famille, il faut être vigilant, évidemment, chez les enfants et chez toute la fratrie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, si on travaille debout ou assis et qu'on est très sédentaire, la sédentarité est catastrophique pour le système veineux. Donc, si on ne veut pas avoir de problème, il faut bouger, il faut marcher. Alors, c'est difficile en ce moment parce qu'il fait très chaud, mais voilà, il faut essayer.
D'ailleurs,
absolument. Hein. Alors, donc, du coup, donc, le deuxième point, c'est la sédentarité, les métiers qui imposent une station debout. J'insiste, que ce soit debout ou assis. Parce que souvent, on se dit, moi, je suis assis.
Dès qu'on ne bouge pas, en fait.
Voilà,
hein.
Exactement. Et on développera après, dans quelques instants, si ça vous intéresse, l'histoire de la pression veineuse. Parce que ce qui entraîne des dégâts au niveau des veines, c'est que la pression veineuse dans la cheville augmente au fur et à mesure de la sédentarité. Et le rôle, justement, un des traitements qui est phare aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le bas de compression.
Que les gens n'aiment pas. Hein.
Voilà, que les gens n'aiment pas et qu'en ce moment, il est évident qu'on ne va pas recommander à des gens de reporter, même si ceux qui les portent, malgré les chaleurs, trouvent qu'ils ont moins mal aux jambes. Mais c'est le rôle du bas de compression, c'est justement de diminuer la pression veineuse. Et cette pression veineuse diminue grâce au bas de compression, mais il suffit de faire quelques pas en marchant pour qu'elle diminue aussi. Donc, c'est tout l'importance que quand on est contraint dans un métier à rester assis ou debout longuement, de se lever, de marcher ou d'user de plusieurs subterfuges, de massage, d'autodrainage, comme l'explique très bien
Elisabeth qui va nous en parler.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est très important d'être très actif dans son quotidien. Donc, parmi les points encore négatifs, évidemment, la chaleur... Mais ça, on le ressent. Donc
et alors,
vous
disiez que les hommes et les femmes ne sont pas finalement égaux. Il y a plus de femmes que d'hommes.
La réponse...
C'est quoi? Ce sont les hormones?
C'est hormonal. Voilà, exactement. Tous les moments importants dans la vie d'une femme hormonaux génèrent des problèmes veineux. Donc, on le voit dans nos patientèles. Alors, dès la post-adolescence, la puberté, la mise en route d'un contraceptif, on voit une fragilité veineuse commencer à se manifester. On voit ça avec, évidemment, les grossesses. Vous savez que c'est assez incroyable. La première grossesse, les statistiques montrent que 20% des femmes démarrent une insuffisance veineuse dans 20% des cas des femmes enceintes. Et dès la deuxième grossesse, on passe à 60%.
Ah oui.
Donc, c'est quand même important. Et ça ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des grossesses. Et en plus de cela... La grossesse est aussi à risque de thrombose veineuse, c'est-à-dire la complication que nous redoutons, c'est-à-dire l'occlusion d'une veine.
Profonde,
et
cette fois-ci.
Exactement, profonde ou superficielle. Ouais. Parce que quand on a une dégradation de l'état veineux, la complication d'une varice, dans 10% des cas, une varice évolue vers une thrombose superficielle. Donc du coup, ce qui est important à rappeler aux gens, c'est prendre soin de ses jambes, c'est pas simplement... Un besoin esthétique.
C'est prendre soin de sa santé.
Absolument. C'est-à-dire, c'est améliorer son quotidien à travers moins de douleurs, mais éviter que les choses se dégradent à travers une prise en charge précoce, surtout si on a une famille où il y a ce problème de génération en génération.
D'accord. Elisabeth Nadeau, est-ce que les ennemis de la circulation sanguine sont les ennemis de la circulation lymphatique ?
Absolument, les mêmes.
Les mêmes ?
C'est exactement la même chose.
Et l'alimentation là-dedans ?
Alors, elle joue un rôle essentiel. Et puis en plus, alors là, on va venir sur le sel. Voilà, les gens qui ont l'habitude de manger trop salé, ben évidemment, on retient plus d'eau. Donc, ça ne va pas arranger le problème. Et aussi, alors ça, c'est contre-intuitif parce que beaucoup de femmes vont vous dire « Ah ben, je fais de la rétention d'eau, donc je ne bois pas. » Alors qu'en fait, ben, ne pas boire suffisamment provoque justement de la rétention d'eau. Donc, sur l'alimentation, c'est vraiment les deux vecteurs très importants, au-delà du fait d'avoir une alimentation équilibrée qui est la base pour tout le monde, pour une santé correct. Donc, mais au-delà de ça, voilà, si en plus de ça, on ne boit pas suffisamment et on mange salé, qu'on a un terrain familial, voilà, qu'on ne bouge pas, qu'on est assis toute la journée, donc du coup, où le bassin est comprimé en permanence, voilà, ça ne fait que multiplier les problèmes.
Alors, tout à l'heure, on parlait des signes d'insuffisance veineuse. Quels sont les signes de l'insuffisance lymphatique ou d'une mauvaise circulation du circuit lymphatique ?
Sur le côté esthétique, il va être très visible avec l'histoire des chaussettes qui marquent énormément, certaines femmes qui se réveillent et qui ont même les marques de la taie d'oreiller le matin, les poches sous les yeux, un ovale qui devient d'un seul coup empâté. Souvent aussi, au niveau abdominal, ben, au bout de quelques heures de la journée, on dégrafe le pantalon. Voilà, tout ça, ce sont des signes qui font que le corps fonctionne mal en termes de répartition hydrique. Et du coup, bah, on s'aperçoit qu'on a un gonflement petit à petit au cours de la journée.
Peut-être qu'il faudrait quand même préciser à nos auditeurs qu'il y a une distinction entre une insuffisance lymphatique réelle, qu'on appelle en médecine le lymphœdème.
C'est ce que j'allais vous demander.
Voilà,
expliquez-nous ce qu'est le lymphœdème et qu'est-ce que le lipœdème.
Alors, vous avez deux types de lymphœdème. Donc, c'est une atteinte de circuit lymphatique à travers. Alors, la cause la plus fréquente que l'on voit, malheureusement, après des cancers, on voit des lymphœdèmes du membre supérieur qui apparaissent parce qu'on a fait des curages ganglionnaires, on a réduit le circuit lymphatique et donc
ça ne fonctionne pas bien.
C'est une des causes assez fréquentes. Maintenant, nous, en tant que phlébologues, nous voyons surtout des lymphœdèmes idiopathiques sans raison. On ne sait pas, ça vient du jour au lendemain. Alors, souvent, c'est après une infection qui a dégradé un petit peu le circuit lymphatique. Mais là, on se retrouve avec des vrais lymphœdèmes et la pathologie est un peu différente. La pathologie, c'est par exemple du jour au lendemain, une seule jambe, c'est unilatérale, qui augmente de volume et qui augmente de volume avec une particularité qui ne touche absolument pas les orteils et qui touche le dos du pied. Donc, il y a une morphologie assez caractéristique du lymphœdème réel. Et souvent, nous avons la possibilité, à travers des examens, comme une lymphoscintigraphie, de pouvoir authentifier ce genre de pathologie et qui permet en fait de dépister exactement l'atteinte du circuit lymphatique et de voir qu'est-ce que l'on peut proposer. Et les traitements sont un peu différents. Alors, le drainage est toujours fondamental, quelle que soit l'origine du lymphœdème. Mais là, on rentre dans des traitements avec des systèmes de compression qui sont faits de manière...
Des collants spécifiques, c'est
alors,
ça ?
Alors, non seulement des collants, mais carrément des bandages compressifs qui sont nécessaires chez patients. À travers, il y a des équipes très spécialisées à Paris qui font ça et qui permettent de pouvoir s'en sortir. Il faut savoir que malheureusement, ce sont des soins de longue haleine sur plusieurs années. Et donc là, on rentre dans des pathologies qui sont quand même des pathologies lourdes, mais qui ne correspondent pas à ce que décrit Elisabeth Nadeau, qui sont des insuffisances lymphatiques très légères, qui rentrent dans le cadre, ce que moi je dirais plus, de la rétention d'eau, des troubles véno-lymphatiques, et qui sont améliorés par les techniques qu'elle propose et qui apportent un vrai soulagement au quotidien. Mais quand on rentre dans la pathologie réelle d'un lymphœdème, là, il faut vraiment une prise en charge adaptée par des kinésithérapeutes spécialisés dans le domaine et par une équipe pluridisciplinaire, médicale, avec des gens qui sauront faire ces bandages et qui le font très bien.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence avec le lymphœdème ?
Alors, pour moi, le lymphœdème... Alors, la différence entre le lymphœdème et le lymphœdème, elle est très facile parce que ça n'a rien à voir. C'est... D'un côté, c'est une atteinte lymphatique et de l'autre, c'est le lymphœdème, comme son nom l'indique, c'est une accumulation de gras au niveau sous-cutané. Mais ce qui est caractéristique, pourquoi ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on a compris qu'il y avait d'un côté des gens qui avaient de la cellulite. Beaucoup de femmes souffrent de la cellulite, mais souffrent sur le plan morphologique, esthétique, mais ne parlent pas de douleur réelle. Et les gens qui ont un lymphœdème sont des gens qui souffrent parle de, d'une vraie douleur. C'est-à-dire, ces gens qui viennent, ils ont évidemment la morphologie de grosses jambes. Alors, vous savez, il y a différents stades. Alors, on m'a tellement parlé du lipœdème. Alors, je fais jamais de pub, entre guillemets, pour mon blog, mais j'ai tellement travaillé sur le lipœdème.
Oui.
Voilà,
oui.
Et j'ai écrit tout un article dans mon blog personnel, sur mon site personnel.
Qu'on mettra où j'explique, sur
voilà,
le site.
Ou dans lequel j'explique largement. J'ai fait une compilation de toutes les grandes études internationales. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de bien étiqueté. On sait très bien à quoi correspond un lipœdème, quel type de traitement envisager.
Et là aussi, c'est pluridisciplinaire.
Alors absolument, parce que maintenant, vous savez que la chirurgie esthétique a beaucoup évolué. Il faut savoir que malgré tout, quand c'est un vrai lipœdème, c'est une intervention chirurgicale avec des micro-canules. Les chirurgiens sont... Il y a en France des équipes...
Formé,
absolument, il y a des équipes de chirurgiens esthétiques qui ne font que ça. Alors avant, certains partaient en Allemagne, partaient en Espagne.
Mais maintenant,
on a des équipes spécialisées. Donc il faut que... ça commence par une échographie Doppler qui permet de dépister réellement le cas d'un lipœdème. Mais surtout, où on a fait aussi beaucoup de progrès, c'est à travers toute une série de bas de contention qui ont une particularité, je ne donnerai pas de marque là, mais je donne toute une série de marques dans mon blog. Mais ce qui est intéressant, c'est la maille tricot. Je ne sais
rectiline,
pas si...
Voilà, c'est une sorte de maille plate,
voilà, rectiline, exactement, ouais. Parfaitement. Vous pouvez vous en parler aussi.
Et la classe
Alors, c'est obligatoirement au moins 3. Une classe 3. Ouais, au moins une classe 3, mais la maille est particulière et elle est adaptée. Et alors, les filles qui ont des lipœdèmes, c'est assez spectaculaire.
Elles se disent très, très soulagées.
Elles ont vraiment plus mal. Mais donc... Parfois, alors vous savez, le problème de la compression des bas et des collants, c'est que souvent, quand on a une morphologie atypique, il faut qu'elle soit sur mesure.
Absolument.
Et donc, du coup, voilà, il ne faut pas hésiter d'aller chez des magasins orthopédiques qui ont cet agrément et qui sont capables de faire du sur mesure parce que ça change complètement la donne. Quand on n'a pas quelque chose qui est adapté à sa morphologie, c'est tout de suite quelque chose qu'on ne va pas appliquer. On va prendre le collant et souvent, malheureusement, dans certaines pharmacies, on vous remet le collant comme ça au comptoir. On ne sait même pas s'il est adapté à vos mesures. Et voilà,
on
c'est pas comme ça.
On ne sait même pas l'enfiler, on ne sait même pas le
Absolument.
Mettre correctement.
Donc du coup, il faut aller dans des endroits, dans des pharmacies, des grandes pharmacies, où il y a des cabines où vous allez pouvoir l'essayer avec quelqu'un qui va vous conseiller, qui va voir s'il
va prendre vos mesures.
Voilà, exactement. Et donc, c'est comme ça qu'on va ressentir un vrai bénéfice de la compression. Alors, vous savez, on ne dit plus contention, on dit compression. On pourrait développer pourquoi, mais en tout cas...
C'est plus imagé, d'ailleurs. C'est plus imagé. On fait de la
Absolument, mais moi, ce que je n'aime pas dans le terme compression, on a l'impression que ça comprime. Or, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de soulager et d'agir sur la réduction de la pression veineuse qui est majorée quand on a une insuffisance veineuse.
Alors moi, en tant que patiente, parce que moi, j'ai un lymphœdème et un lipœdème et j'ai été opérée.
Bon,
et ce qui change tout, en fait, entre le collant de... support, je dirais, veineux et le collant spécifique pour l'hypodème, c'est qu'en fait, on n'a pas cet effet garrot, en fait, qui se crée avec un collant à visée veineuse. Et vraiment, c'est ça qui change tout dans la compression. Et cette fameuse maille est très différente parce qu'elle contient de façon très différente le tissu adipeux et le tissu lymphatique et sanguin. Et c'est vrai que ça change tout. Et en effet, on n'a pas le choix. Il faut vraiment aller chez des gens spécialisés. Il n'y a pas le choix.
Alors, et qui mieux qu'une personne qui souffre de ces troubles pour pouvoir mieux prendre en charge tout le monde. Donc vous allez en deuxième partie nous raconter tout sur le drainage lymphatique et l'autodrainage. Mais en attendant, si vous voulez bien, nous allons faire une petite pause musicale. Et je vous emmène en vacances pour mettre vos jambes dans l'eau avec Omer Adam à Rio de Janeiro.
נפגשנו בבית קפה בשקיעה וגם חברות של הקאר הבוסם של הטוב קראתי למאמה תגידי לי למה לבזבז את הזמן הפוך לשניים קצת אושר בעיניים ביקשתי פעמיים את השם שלה אוקיי מריה נהג דקה מגיע תראי לי את אני חייב רק להזיר כי יש לי חברים טיפה משוגעים הגענו לברזיל ומאז הם רק רוקדים כולם עושים לי אופופו אופופו
תכירי זה אח יקר, זה יאיה, ויש לו לב מזהב. הוא רק נראה בין 20 כפרה, הוא אבא לארבע, ואת מה איתך? 22, רואים לך בעיניים, את חיה בשמיים, אין דאגות. אז מה מריה, יהודיה מאימה, תראי לי את העיר. יש לי חברים, טיפה משוגעים, הגענו לברזיל ומאז הם רק עובדים, כולם עושים לי יום פה פה, פה פה פה, כל הלילה. אז תתקשרי לחברות, תראי בנרות, יש ערב פה בקסה, עם יין בנרות, הם יעשו לך פה פה פה, פה פה פה, כל הלילה. כולם בריאו דה ג'נרו, דודו בנטקרו, מי איפה? אז אל תשאיר אותי לבד איתן בריאו דה ג'נרו.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie d'Objectif Santé avec le docteur Ariel Toledano, médecin vasculaire, et Elisabeth Nadeau, qui a développé une technique personnalisée de drainage lymphatique. Eh bien, nous allons parler maintenant de la prise en charge. Alors, Elisabeth Nadeau, dans votre livre que je remonte, Les extraordinaires pouvoirs du drainage lymphatique, vous évoquez la ménopause, période clé, et en particulier vous racontez qu'une de vos clientes vous a dit qu'avec la ménopause, elle avait pris 5 kilos, et que pour elle, c'était essentiellement de l'eau. Alors, est-ce que c'est un phénomène que vous observez souvent? Et surtout, est-ce que le drainage lymphatique peut vraiment aider les femmes à cette période de vie?
Oui. De toute façon, à chaque moment d'un bouleversement hormonal, que ce soit la puberté, que ce soit la grossesse ou que ce soit la ménopause. En effet, alors cette cliente, ça avait été assez impressionnant parce que c'était arrivé jusqu'à 5 kilos, mais de toute façon, toute femme arrivée dans un chamboulement
hormonal... Elle sait qu'on prend du poids à la ménopause.
C'est ça. Voilà. Du poids ou pas forcément de poids, mais plutôt un volume qui change. Mmh. Voilà, moi, je n'ai pas des mains magiques. Le poids, je ne peux rien y faire. C'est
ça,
leur alimentation.
En tant que nutritionniste.
Exactement. Mais en effet, souvent, la rétention... Moi, mon cas personnel, je suis passée d'un 46 à un 42 uniquement grâce au drainage.
Vous donc, allez intéresser beaucoup de monde, là.
Donc, j'ai dégonflé de façon incroyable. Ça fait 30 ans que je fais du drainage. Comme tous les cordonniers, je ne me suis jamais occupée de moi. Donc, j'étais la plus mal chaussée. Et au moment où j'ai commencé à faire les autodrainages pour faire le cours en ligne, je me suis dit, mais j'ai quand même le commencé sur moi-même.
Dommage, je n'ai pas testé sur vous.
Voilà. Donc, j'ai commencé à le pratiquer. Et là, j'ai vu petit à petit ma silhouette qui s'est carrément transformée.
Alors, docteur Toledano, quel est votre regard à vous de médecin phlébologue sur cette prise de poids à la ménopause?
Alors, c'est très fréquent, hein, on le constate régulièrement. Alors, c'est vrai, moi je dirais plus que c'est encore un problème de rétention. Je reviens à la rétention d'eau, à de l'œdème, pour employer un terme médical. Et je suis persuadé que le drainage doit grandement améliorer. Mais je suis persuadé que ça nécessite quand même, chez ces patients, une évaluation de l'état hormonal, voir s'ils ont besoin d'un traitement.
Bien sûr.
Donc du coup, toujours une prise en charge qui soit en même temps médicale et en même temps à travers des soins adjuvants comme ce que vous proposez.
Et du sport.
Hein ?
Et du sport.
Évidemment, une activité physique. Vous savez, moi je dis souvent, exactement, vous avez parfaitement raison, je dis souvent aux gens, mais vous savez, on ne peut pas manger de la même manière à 20 ans qu'à 60 ans. Et je parle devant quelqu'un qui connaît ce sujet.
On aimerait bien pourtant.
Voilà.
Hein, mais...
Et donc du coup, voilà, donc on peut, voilà, il y a une prise en charge globale et c'est toujours, de toute façon, c'est toujours comme ça. La médecine, c'est une prise en charge globale des individus à travers des soins différents, une amélioration. Vous savez, c'est assez particulier la médecine parce qu'on peut se retrouver dans des situations assez étonnantes. Par exemple, une femme qui pensait être ménopausée, qui rentre dans mon cabinet, moi ça m'a toujours marqué cette histoire, et qui me dit « Docteur, il faut que je vous annonce quelque chose ». J'étais persuadé qu'elle allait m'annoncer quelque chose de très grave, une maladie assez grave, parce qu'elle avait dit d'un ton très solennel, et en fait, compte, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Donc à 52 ans, sans avoir rien fait. Donc vous savez, donc, du coup, il faut quand même se faire suivre, parce que ce n'est pas parce qu'on a 52 ans qu'on ne peut pas ne pas tomber enceinte. Et donc du coup, ne pas arrêter brutalement des traitements contraceptifs, quel que soit l'âge, aller voir son gynécologue pour évaluer son état hormonal, tout ça me paraît conséquent. Et par contre, et il faut insister, moi en tant que phlébologue, mon problème c'est surtout, on sait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les veines sont très sensibles aux variations hormonales. Et donc, du coup, quand vous avez une variation aussi bien en excès qu'en baisse, c'est-à-dire que quand le taux d'hormones chute, les veines sont malheureusement très sollicitées, aussi bien par la distension que par le risque de thrombose. Donc, du coup, c'est très important d'évaluer un état veineux. Et donc, pourquoi je veux le rappeler aux auditeurs, c'est l'importance de faire des examens qu'on appelle une échographie Doppler, qui permet non seulement d'évaluer l'état veineux, mais pouvoir dépister justement si c'est un problème de rétention, si c'est un vrai problème d'œdème. C'est un examen qui est très... j'imagine important. Que c'est quelque chose que vous consultez, que vous avez besoin parfois d'avoir comme information, parce qu'il permet vraiment non seulement de faire une cartographie des veines, d'évaluer quand même partiellement l'état lymphatique, de dépister un œdème et son origine. Donc du coup, c'est un examen intéressant justement à la ménopause.
Alors justement, une fois que vous avez fait votre diagnostic, comment allez-vous construire votre stratégie thérapeutique ? Par quoi on commence ?
Alors, l'activité physique. Évidemment, toute l'action locale. Moi, j'ai appelé ça la théorie des 3A. Je ne sais plus dans quel livre ça ne doit pas être dans celui-là, mais dans un autre.
Que je rappelle, oui, prenez soin de vos jambes, paru aux éditions du Cerf.
Absolument. Et ce livre a une particularité, c'est qu'en fait, je l'ai construit en 5 moments, c'est-à-dire quels sont les 5 motifs de consultation les plus fréquents dans nos consultations en médecine vasculaire. Donc du coup, voilà. Et donc évidemment, les troubles lymphatiques, les œdèmes, et quelque chose, c'est toute une partie là-dessus. Mais pour ma stratégie, donc, l'activité physique, l'action locale à travers des drainages, des autodrainages, on peut agir. Ce qui est très en vogue, alors tous les jours, on me parle de pressothérapie, je ne sais pas si...
Les bottes.
Voilà, les bottes de parce qu'en fait, beaucoup de médecins sportifs de très haut niveau font des vidéos Instagram en montrant qu'ils utilisent ça en récupération après un effort physique. Moi, je ne suis pas contre, absolument. Il y a des contre-indications qu'il faut connaître, donc il faut quand même poser la question à son médecin. Mais je crois que si on veut vraiment avoir un effet bénéfique sur la circulation lymphatique, je parle sous l'autorité d'Elisabeth, évidemment, il faut associer ce type de pressothérapie, donc ces bottes de pressothérapie, à du vrai drainage lymphatique manuel. Sinon, ça ne marche pas. Si on ne fait que de la pressothérapie, d'abord, ce n'est pas adapté à la morphologie anatomique de chaque individu et ça ne donnera pas un résultat conséquent s'il n'y a pas du drainage lymphatique manuel associé. Donc, je crois que vous serez d'accord.
Voilà.
Et donc, du coup, ça, c'est donc dans l'activité, dans l'action locale. Et troisièmement, évidemment... On va parler évidemment de la compression, on l'a abordé. Et puis, il y a toute une série, vous savez, on a beaucoup décrié pendant des années en médecine vasculaire les phlébotoniques. On les a appelés des toniques veineux, voilà, les médicaments, on peut les appeler aujourd'hui des veinoactifs.
Est-ce que ça marche ?
Alors voilà, la question, est-ce que ça marche ? Alors, ce qui est très intéressant, alors justement, j'en reviens aussi à mon blog, ceux qui s'intéressent, parce que outre-Atlantique, on ne connaît pas. Vous savez, si vous allez aux États-Unis, ils ne savent pas ce que c'est un veinoactif. Il n'y a que l'Europe qui connaît ça. En France et l'Allemagne principalement. Et quand vous regardez aujourd'hui l'intérêt pour les veinoactifs aux États-Unis, vous êtes surpris qu'ils ont fait des très grandes études avec des classifications intéressantes où ils mettent en premier, alors le premier traitement qui est vu aux États-Unis comme celui qui est le plus efficace. Je crois que l'étude, elle a été faite sur quasiment plus de 1500 études répertoriées.
Très grosse, ce qu'on appelle
exactement.
Une méta-analyse.
Alors, une méta-analyse très importante, répertoriée dans des grandes revues américaines. Et la diosmine micronisée, je ne donnerai pas le nom commercial, est celui qui ressort numéro 1 en termes d'efficacité sur la sensation de jambes lourdes. Alors, pour tout cela pour vous dire que si, même outre-Atlantique, où ils étaient un peu dubitatifs sur cette classe médicamenteuse, ils commencent...
J'ai l'impression qu'ils ne s'intéressaient pas beaucoup aux veines et aux jambes.
Et ils commencent à dire que ça marche et que ça soulage. Et d'ailleurs, vous savez, moi, je fais partie d'une génération qui a vu ces produits, à un moment, remboursés par la Sécurité sociale. Et puis, subitement, ils ont été déremboursés. Et il y a ce qu'on appelle la double peine. C'est-à-dire, quand un produit est déremboursé, il augmente en termes de prix.
Et il finit par disparaître parce que personne ne l'achète.
Il finit par disparaître. Voilà. Mais par contre, ceux qui sont encore sur le marché... sont encore achetés, et si les patients les achètent, ou si les personnes les achètent, c'est qu'ils en trouvent un bénéfice. Et je crois qu'en fait, alors ça je le développe dans mon livre, c'est qu'il y a en fait différentes classes médicamenteuses qui sont quasiment issues pour 98% des plantes, et moi qui suis un spécialiste d'histoire de la médecine, qui ai beaucoup travaillé sur Maïmonide lui-même, le grand Maïmonide, au XIIe siècle, connaissait ces molécules, c'est en tout cas ces plantes qui agissent sur la circulation veineuse. Et donc, il faut savoir quoi prendre. Il y a certaines qui agissent plus sur la douleur, d'autres qui vont agir un peu plus sur l'œdème, d'autres plus sur la lymphe. Donc, si on ne cible pas exactement en fonction des symptômes, on n'aura pas une efficacité sur ce qu'on ressent.
D'accord. Alors, Elisabeth, on va rentrer dans le cœur du problème. Voilà, c'est quoi le drainage lymphatique ?
Alors, le drainage lymphatique et l'autodrainage, déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le drainage lymphatique esthétique, il se fait chez un praticien formé, validé, certifié. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut se former au drainage en 7 heures. Hein. Et même en visio. Donc, voilà. Donc, soyez bien vigilants sur le spécialiste que vous consultez, parce que malheureusement, on trouve de tout aujourd'hui. Donc, après, une fois que vous avez bien identifié le parcours de la personne entre lesquelles vous allez remettre votre système lymphatique, un drainage lymphatique réel se fait à sec et sans huile. Donc, c'est une technique qui est douce, lente, répétitive, où la pression est la même.
Ça ne fait pas mal, alors. Hein?
Voilà, et ça ne peut pas faire mal, ce n'est pas possible. On ne va pas du tout aller travailler sur la cellulite, on travaille uniquement sur la lymphe et donc sur le volume. Encore une fois, dans le cadre de la beauté et du bien-être. Ensuite, quand on fait de l'autodrainage, ben, on reprend le même principe. Donc, du coup, on va travailler à sec, par des mouvements répétitifs. On va travailler toute la sphère autour des ganglions. Et on va suivre un chemin bien précis qui nous permet d'évacuer justement cette lymphe qui est stagnante, qui est ralentie, et lui permettre une meilleure vitalité, on va dire ça comme ça.
Alors, vous avez certaines personnes qui pensent qu'un seul drainage ponctuel peut suffire, mais combien faut-il de séances pour que ce soit vraiment efficace et au fait, est-ce qu'il y a des contre-indications au drainage ?
Oui, il y en a, et beaucoup. Donc, c'est pour ça que moi, je demande toujours une attestation à mes clientes de la part de leur médecin que je puisse pratiquer le drainage lymphatique. Et je mets ces contre-indications bien en avant, que ce soit dans le cours en ligne ou dans le livre. Il y a plein de contre-indications, comme toutes les techniques actives et qui ont du résultat. Il y a évidemment des contre-indications. Donc, si on a un cancer et qu'on est en phase de traitement, on ne fait pas du drainage. Si on a un problème, de varices, de phlébites, on prend la vie médicale. On ne se lance pas dans du drainage lorsqu'on a ce type de problématique. Et il y a aussi toute la sphère liée à une insuffisance cardiaque qui pourrait être aussi quelque chose à identifier et à relever et à déterminer avec son généraliste.
Donc, c'est bien une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, dans votre livre, et ça va donner envie de le lire, parce que vous proposez 20 protocoles d'automassage. Donc, est-ce que tout le monde peut vraiment apprendre ces gestes et qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice ?
Alors d'abord, tout le monde peut l'apprendre. Après, le pratiquer, ça dépend de la vie du médecin. Qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice ? Ben après, ça dépend des zones. Si on va travailler sur le contour des yeux, ben on va avoir un regard plus éclatant, moins de poches sous les yeux.
Le regard du matin, on peut faire quelque chose contre. C'est extraordinaire. Voilà.
Les jambes aussi, évidemment, vont avoir beaucoup d'action. Le haut du corps, parce que aussi, une fois arrivé à la ménopause, les femmes, on a notre silhouette qui change, qui se modifie, et les volumes qui se modifient aussi. Donc, il y a tout un protocole lié plus au haut du corps.
Et le ventre, je vois que vous parlez du ventre.
Absolument.
Hein.
Ah ben pour moi, le ventre, c'est essentiel dans le drainage lymphatique. Et c'est pour ça que lorsqu'on parlait de pressothérapie, la presso, c'est génial à partir du moment où déjà, il y a des bottes correctes qui montent vraiment jusque, qui prennent tout l'abdomen. Autrement, oui. Pour moi, il n'y a pas de travail, on ne peut pas travailler sur cette sphère-là. Donc, du coup, il n'y a pas de résultat.
Donc, le drainage lymphatique peut avoir un impact sur le ventre ?
Bien sûr, bien sûr.
On dégonfle
énormément. Énormément. Bah, de toute façon, c'est là où il va y avoir tout le système lymphatique profond. Donc, PK et toute cette sphère-là qu'il va falloir travailler et soulager pour permettre l'évacuation. Et l'évacuation, elle se fait de partout. Donc, bien sûr, on va perdre du volume aussi au niveau du ventre. Après, il faut avoir bien identifié quelle est sa problématique. Si c'est parce qu'on mange des choux à la chantilly à 16h tous les jours, le drainage n'aura aucune action. C'est une certitude.
Alors justement, docteur Toledano, je reviens vers vous, parce que dans votre livre, vous proposez des programmes clés en main pour chaque profil, jambes lourdes, jambes gonflées, cellulite. Alors, quels sont les points communs à tous ces programmes et quelles sont les adaptations qui font vraiment la différence selon les symptômes ?
Le point commun, je dirais, c'est l'activité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'idées si on n'a pas une activité physique régulière.
Alors, n'importe au moins, quelle activité ?
Alors, vous avez raison, il y a des activités, nous, en tant que phlébologues, qu'on n'aime pas. C'est déjà, par exemple, la course à pied, c'est catastrophique pour les veines. Ça traumatise la colonne veineuse.
Je l'ai toujours dit, c'est dangereux pour la santé.
C'est vrai.
Donc, du coup, moi, je préférais de la marche active,
de la marche
piscine.
Dans l'eau.
Voilà, la piscine, la natation, du vélo dans l'eau, de l'aquabiking. Ça plaît, c'est toujours intéressant à faire. Toutes les activités dans l'eau. Et puis, il y a aussi ce qu'on aime beaucoup, nous, c'est en salle, c'est le vélo elliptique. C'est quelque chose qui est assez intéressant pour renforcer.
Vous savez, travailler c'est... le haut du corps et
absolument,
le bas en même temps.
Absolument, parce qu'en fait, on a parlé, on a expliqué que ces petites valvules, quand elles sont défaillantes, le sang ne remonte pas très bien, donc il reflue vers le bas. Mais quand on contracte les muscles, chaque contraction musculaire propulse le sang vers le haut. Et donc, si vous ne faites pas d'effort, ben, le sang a tendance à stagner. Et c'est ce qui génère cette augmentation de la pression veineuse et les complications que l'on aura par la suite. J'insiste sur un point, peut-être par rapport à ce que vous avez dit sur l'insuffisance lymphatique et par rapport au drainage lymphatique. Je dirais que nous, en médecine, quand on est amené à prescrire, il faut quand même expliquer que là, on est dans des soins plutôt de confort. Et nous, quand on est amené à prescrire du drainage lymphatique, c'est fait par des kinésithérapeutes qui, normalement, devraient être formés. Hein. Tous
absolument,
ne sont pas.
Absolument.
Il y a une association en France qui s'appelle l'Association des masseurs kinésithérapeutes spécialisés en drainage lymphatique. Il y en a quelques-uns dans chaque arrondissement en Paris et puis dans toutes les villes de France.
C'est la méthode Veder, c'est ça?
Voilà, exactement. Ils pratiquent cette méthode, notamment, qui a été développée depuis plusieurs années. Mais surtout, c'est une prise en charge qui est très bien codifiée et qui ne peut pas s'adapter à des soins de confort. Vous voyez,
absolument.
C'est ça, c'est très important de préciser. Ce n'est pas la peine d'aller voir un médecin pour avoir une ordonnance parce que ça ne marchera pas. Ce n'est pas du tout dans ce cas de figure. Nous, la Sécurité sociale nous a bien indiqué que c'est pris en charge uniquement dans le cadre
de pathologie.
D'une vraie insuffisance lymphatique qu'on appelle le lymphœdème, qu'on a évoqué au début de l'émission. Donc du coup, voilà, par rapport à ces stratégies de traitement, peut-être parler aussi de l'alimentation. Vous avez évoqué le fait de beaucoup boire et surtout en ce moment, le rappeler à nos auditeurs. Et puis surtout, moi j'insiste sur un point, vous serez d'accord avec moi, c'est les protéines. C'est-à-dire que si on doit faire un choix
tout
aujourd'hui, c'est manger des protéines.
Il faut parce manger que, suffisamment.
Voilà, exactement, parce que souvent on voit beaucoup de gens ne pas manger de protéines. On rentre dans une période où les gens mangent moins de protéines
mange
animales.
Mange que de la salade. Hein.
Voilà, exactement.
Voilà,
et donc du coup, même des protéines végétales peuvent être très intéressantes parce qu'elles ont vraiment un effet absorbant l'eau et diminuant les œdèmes de manière conséquente. Donc moi, j'ai souvent vu des décompensations chez des patientes qui avaient des œdèmes et il suffisait simplement de rééquilibrer leur alimentation et retrouver des jambes plutôt légères. Donc ça, c'est le premier point. Et puis surtout, alors on a parlé du pépin de raisin aussi en dehors de l'émission, mais c'est extraordinaire. Donc quand vous mangez des raisins, mangez du pépin, ça a un effet antioxydant, ça a un effet draineur. Il y a toute une série de plantes qu'on a évoquées à travers Maïmonide, qui a la mamélis, le mélilo, le marron d'Inde, tous les fruits rouges. Alors, ce n'est pas la saison en ce moment, mais si on aime ça, on peut faire des milkshakes avec des fruits rouges, les mixer. C'est excellent, ça a un effet dopant sur la microcirculation aussi, parce qu'on a parlé de la lymphe, des veines et des artères, mais il y a aussi une autre partie qui serait probablement susceptible de faire une autre émission, qui est la microcirculation.
Ah, oui.
Ces petits capillaires qui ont un rôle fondamental et qui participent
vous
aussi
allez revenir,
à la rétention.
Alors.
Oui.
Voilà, parce que malheureusement... Et qui sont endommagés lorsque justement le drainage est mal pratiqué,
absolument,
trop fort, trop
absolument.
Appuyé, et du coup, effet boomerang.
Et malheureusement, donc vous l'avez compris, on arrive à la fin de cette émission. Donc, d'ailleurs, en ce qui concerne l'alimentation dont parlait le docteur Toledano, je conseille la lecture de votre livre parce que vous citez 10 alliés drainants. Donc, si vous voulez tout savoir, allez voir Les pouvoirs extraordinaires du drainage lymphatique qui est paru chez Solar. Pour conclure, Elisabeth Nadeau, deux conseils simples pour que l'été se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit comme automassage?
Alors là, je pense comme on va vers plus que les beaux jours, on y est, ça y est. Ben déjà, profitez de l'eau. Si vous avez la chance d'aller en piscine ou à la mer, ben profitez-en pour marcher dans l'eau, tout simplement. Le longe-côte, c'est extraordinaire pour les jambes. Et puis après, ben oui, vous pouvez apprendre les techniques de base de l'autodrainage et commencer à faciliter l'élimination.
Puisqu'on a un peu de temps libre.
Et c'est essentiellement, voilà, stimuler les rétroclaviculaires qui sont la zone la plus importante dans tout autodrainage.
Docteur Toledano, le mot de la fin, qu'est-ce que vous conseillez?
Simplement bouger, surélever les jambes et profiter qu'il fasse très chaud pour utiliser des jets douches d'eau froide sur vos jambes en allant toujours du bas vers le haut dans le sens de la circulation sanguine et le faire de manière redondante dans la journée, vous serez déjà apaisé.
Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette émission passionnante et j'ai envie de dire presque de saison. Je voulais dédier cette émission à une femme extraordinaire, ma maman, qui adorait nous écouter. Et en attendant de tous vous retrouver, je vous dis portez-vous bien.